suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Après plus de 2 ans d'attente, c'est aujourd'hui que l'administration américaine doit présenter à Bahreïn le volet économique de son plan visant à régler le conflit israélo-palestinien, en l'absence toutefois des Palestiniens qui jugent la démarche totalement inopportune dans la mesure où elle n'offre a priori aucune solution politique. Au final, cette conférence devrait donc surtout permettre aux États-Unis de tenter de rapprocher les États du Golfe de leur allié principal dans la région Israël dans le cadre d'une vaste alliance anti-iranienne.
Depuis hier, la voie est désormais libre pour un retour des Russes au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
Et un amendement a été voté en ce sens hier au terme d'une séance marathon qui aura opposé les partisans de la fermeté à ceux du dialogue avec Moscou.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le patron de Nissan qui a entrouvert la porte aux discussions sur la structure de l'alliance avec son partenaire Renault.
Annonce faite ce matin lors d'une assemblée générale d'actionnaires pour le moins tendue, et ce alors que le partenariat franco-japonais reste fragilisé par l'éviction de son bâtisseur Carlos Ghosn. Les recherches pour tenter de retrouver le jeune homme porté disparu lors de la nuit de la fête de la musique à Nantes se poursuivent ce matin, 4 jours après une opération policière controversée au cours de laquelle 14 personnes sont tombées dans la Loire. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Nathalie Hassel, directrice de la Fondation, a pris l'occasion de la publication du baromètre sur les conséquences de l'hyperconnexion pour la santé. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Un ancien aéroport devenu lieu d'accueil des migrants, c'est le Berlin Tempelhof, et c'est le titre du documentaire de Karim Aynouz, notre premier invité, documentaire diffusé ce soir sur Arte. Avec lui, nous parlerons des conditions d'accueil aujourd'hui en Europe depuis l'ouverture de ce centre en 2015 en Allemagne, avec Karine Parot qui est juriste, membre du GISTI et qui publie Carte blanche, l'État contre les étrangers à la fabrique.
Merci et à tout à l'heure. De son propre aveu, son projet doit permettre de changer la donne au Proche-Orient. Reste évidemment à savoir dans quel sens. Toujours est-il que c'est donc aujourd'hui à Manama, au Bahreïn, que Jared Kushner, le gendre du président américain, doit présenter au reste du monde son fameux plan de paix baptisé le deal du siècle, est censé résoudre rien de moins que le conflit israélo-palestinien vieux de 70 ans. Or, parce qu'avant lui, aucun des diplomates pourtant chevronnés qui se sont essayés à résoudre ce casse-tête n'y sont parvenus, la tâche s'annonce a priori difficile, sinon insurmontable pour ce conseiller spécial qui plus est sans la moindre expérience diplomatique. Sans compter que depuis 2 ans, son beau-père, locataire de la Maison Blanche, n'aura lui pas aménagé ses efforts pour initier une dynamique à même de faire douter de la nature totalement impartiale de ce plan. Après s'être déclaré indifférent à la question de savoir si les négociations de paix devaient aboutir à la solution à 2 États, Donald Trump a choisi de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël avant d'annoncer mettre fin au financement de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens et pour finir de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Alors, quelques informations ont filtré sur ce que pourraient proposer les États-Unis. On parle notamment d'un volet économique qui viserait 50 milliards de dollars d'investissement sur 10 ans pour les Palestiniens. En revanche, ce projet semble évacuer complètement la question politique relative au règlement de ce conflit. De quoi susciter d'ores et déjà, Étienne, le rejet de l'autorité palestinienne.
Oui, et c'est assez rare en Palestine. Le front est unanime dans la société. Les Palestiniens boycottent cette conférence. Le président Mahmoud Abbas considère qu'elle n'a aucune chance de succès. Il critique encore plus fermement les Américains. Ils refusent cette approche qui consiste à parler économie avant d'aborder le sujet politique. C'est une stratégie. Les Américains ont repoussé le volet politique de leur plan au mois de novembre. Cela coïncide avec le calendrier israélien et la formation attendue d'un gouvernement une fois les élections du 17 septembre passées. Cette approche s'éloigne des paramètres traditionnels du règlement du conflit. Elle privilégie l'économie sur la solution légale et politique. Il n'y a d'ailleurs pas trace du terme occupation ou de la réalité de l'occupation dans le document qui a été diffusé ce week-end par la Maison Blanche. Le plan évoque les conséquences sans aborder la réalité des causes. C'est un plan parfois très général qui prévoit, alors uniquement pour Gaza et la Cisjordanie, 24 millions d'euros. Le reste est promis aux régions, aux pays de la région autour. L'eau, l'électricité, l'éducation, les infrastructures, les transports, les institutions sont concernés. Le plan prévoit une route ou une voie ferré entre Gaza et la Cisjordanie. Il promet entre autres la création d'1 million d'emplois sur 10 ans, mais il ne précise pas qui finance quoi, et le préalable c'est la paix, donc un volet remis à plus tard au moment où les Américains, eux, seront entrés dans la période de pré-campagne présidentielle.
Merci Étienne Monin, en direct de Jérusalem. Alors pour que ce projet ait une chance d'aboutir, tout l'enjeu en réalité pour les États-Unis sera d'obtenir le soutien à la fois du prince héritier et homme fort des Émirats, mais aussi de l'actuel prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite. Or Washington dispose a priori pour cela d'un bon point, une vision stratégique commune que l'on pourrait résumer par une détestation de l'Iran. Aurélien Colli, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes de Beyrouth, évidemment. Le problème, si une telle alliance devait voir le jour, eh bien, c'est qu'elle risquerait d'apparaître comme une trahison par une partie importante du monde arabo-musulman, lequel se montre d'ailleurs déjà, Aurélien, pour une très grande partie, exaspéré par ce plan de paix américain.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a vu au Maroc le week-end dernier des manifestations avec des slogans s'en prenant directement à l'Arabie et aux Émirats, qualifiés de traîtres ou d'alliés du sionisme, critique qu'on retrouve aussi avec plus de nuances dans la presse arabe. Alors pour les deux princes autocrates d'Arabie Saoudite et des Émirats, l'ennemi numéro un n'est plus Israël, avec qui il y a beaucoup d'intérêts communs, comme l'a dit le prince héritier saoudien en décembre. Non, l'ennemi c'est le grand rival chiite, l'Iran, que Riyad et Abu Dhabi rêvent de voir à genoux. Pour l'Arabie, ce serait l'assurance de s'imposer comme la puissance régionale du Golfe Persique, tout en renforçant son leadership dans le monde musulman, fragilisé par l'Iran depuis sa révolution islamique de 79. L'affrontement, il a même pris une tournure militaire. En Syrie, l'Iran soutient Bachar al-Assad. Quand les Saoudiens et les Émirats ont soutenu l'opposition sunnite au Yémen, les armées émiriennes et saoudiennes affrontent les rebelles houthis, soutenus par l'Iran. L'Iran qui s'est aussi imposé comme le vrai défenseur de la cause palestinienne, avec par exemple le djihad islamique à Gaza ou le Hezbollah au Liban. Cela étant dit, si la participation des Saoudiens et des Émiriens à cette conférence de Manama résulte de leur volonté de maximiser leurs relations avec l'administration Trump pour se rapprocher d'Israël contre l'Iran, il y a quand même une ligne rouge que les deux pays auront du mal à franchir. Elle a même été tracée par le roi d'Arabie, le père du prince héritier, lors du dernier sommet de la conférence islamique à La Mecque il y a 3 semaines. La déclaration finale rappelle le soutien au peuple frère palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits politiques, notamment un État et le droit au retour des réfugiés. Certains analystes estiment aussi qu'il faut nuancer le soutien de Riyad et d'Abu Dhabi. Les deux capitales sauraient en effet que le plan est voué à l'échec, mais elles ont intérêt à jouer les bons élèves avec l'administration Trump dans leur stratégie contre Téhéran.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth. Et puis tandis que les États-Unis et l'Iran continuent donc visiblement de vouloir s'installer dans une logique de tension, certes risquée mais aussi calculée, eh bien le Conseil de sécurité a lui appelé hier dans une déclaration approuvée par ses 15 membres au dialogue et exhorté les parties concernées, tous les pays dans la région à observer la plus grande retenue. Enfin, précisons que le dit Conseil tiendra demain une réunion régulière sur l'application de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Après 6 semaines de glaciation, les négociateurs de la Chine et des États-Unis pour le commerce ont eux enfin repris langue hier, à quelques jours d'un entretien très attendu entre Donald Trump et Xi Jinping, et pour cause puisqu'il s'agira de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis novembre dernier, c'est-à-dire depuis que les négociations commerciales sino-américaines, de plus en plus dominées par un conflit technologique, sont tombées dans l'impasse. Hier, 9h de débat houleux dans une assemblée d'ordinaire davantage habituée aux discussions feutrées auront finalement permis de mettre un terme à 5 ans de crise. Les parlementaires du Conseil de l'Europe à Strasbourg ont adopté une motion ouvrant la voie au retour des Russes au sein de l'institution, des Russes qui pratiquaient la politique de la chaise vide depuis que leur droit de vote avait été suspendu en 2014 après l'annexion de la Crimée. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors ce vote devrait donc permettre aux Russes de réintégrer dès aujourd'hui les rangs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont le rôle, rappelons-le, est d'émettre des recommandations au gouvernement sur les droits de l'homme ou la démocratie. Dès lors, on comprend mieux l'exaspération de certains, en particulier les États baltes, le Royaume-Uni, mais aussi et surtout l'Ukraine, qui a d'ailleurs aussitôt annoncé ce matin sa suspension aux travaux de l'Assemblée. À l'inverse, on rappellera que la France et l'Allemagne, elles, ont soutenu ce retour. Et visiblement, ce qui a fait pencher la balance, Louise, eh bien, c'est que la Russie menaçait tout simplement de ne plus payer sa participation annuelle.
Eh oui, 33 millions d'euros annuels de manque à gagner, suppression de postes et réduction d'activité à la clé. Dans cette affaire, l'argent a donc pesé, mais ce n'est pas bien sûr le motif officiellement avancé. Privée de son droit de vote, la Russie menaçait de quitter purement et simplement l'institution. Conséquence, l'impossibilité pour 144 millions de citoyen russe de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le bras juridique du Conseil de l'Europe. C'est donc cet argument qui a, paraît-il, pesé, alors que la Russie est loin d'appliquer tous les jugements de la Cour, relèvent les opposants à un retour de la délégation russe.
Alors parmi ces opposants, Ukraine en tête, le Royaume-Uni, les États baltes, tous dénoncent un festival d'hypocrisie.
Oui, les Russes n'ont en effet rien concédé depuis 2014, ni en Crimée, ni dans le Donbass, pas même le début d'une promesse d'échange de prisonniers. Tard hier soir, Moscou s'est donc empressé de crier victoire et sans même attendre l'issue du vote a envoyé sa délégation à Strasbourg. Ultime humiliation pour l'Ukraine, des élus représentant la Crimée annexée pourraient en faire partie. Bref, le Conseil de l'Europe encourage les appétits de conquête du Kremlin et se condamne lui-même à devenir une coquille vide. Voilà ce que disent les partisans de la fermeté. Mais une majorité de pays a craint une rupture complète avec Moscou et préfère garder la Russie à l'intérieur plutôt qu'avoir à la redouter à l'extérieur. La France, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Europe, a beau affirmer que cette instance n'est pas vraiment politique, c'est bien la réelle politique qui s'est en son sein pleinement imposée.
Merci Louise Baudet. Alors parmi les pays qui s'opposaient farouchement au retour des Russes au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, on trouve notamment la Géorgie. Là-bas, cela fait plusieurs jours déjà qu'une puissante vague de mécontentement spontané contre Moscou submerge les rues de la capitale, Tbilissi. Il faut dire qu'en dépit de tentatives récentes de normalisation de la situation, eh bien les Géorgiens n'ont pas encore digéré la guerre qui leur avait coûté il y a 11 ans maintenant la perte des régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. C'était la première assemblée annuelle des actionnaires de Nissan depuis le scandale Carlos Ghosn et manifestement elle aura tenu toutes ses promesses quelques jours à peine après la fin d'une querelle publique autour de la représentation de Renault dans les puissants comités du conseil d'administration du groupe japonais. Le directeur général de Nissan a de nouveau soufflé le chaud et le froid sur les relations avec son partenaire français, en l'occurrence Hiroto Saikawa, s'est dit prêt devant les actionnaires à revoir la structure capitalistique de l'alliance. Les précisions à Tokyo du correspondant des Échos pour France Culture, Yann Rousseau.
On savait que les actionnaires de Nissan étaient très remontés depuis la chute de Carlos Ghosn. La valeur de leur action a baissé de 30% en 7 mois. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce matin, ils ont concentré leur colère, non pas sur la direction de Nissan, mais sur les Français, et particulièrement sur Jean-Dominique Sénard, le président de Renault. Plusieurs actionnaires l'ont pris directement à partie. « Nous pensions que vous étiez un gentleman, monsieur Sénard, mais c'est comme ça les Français. Derrière le sourire, il y a des mensonges », a même hurlé l'un des actionnaires. Ce sont en fait toujours les mêmes angoisses qui remontent. Beaucoup de Japonais sont convaincus que Renault, qui détient 43% de Nissan, veut prendre le contrôle du groupe Nippon et que c'est l'État français qui est à la manœuvre pour orchestrer cette grande opération. Il ne pardonne ainsi pas à Jean-Dominique Sénard d'avoir travaillé discrètement à l'idée d'une fusion entre Renault et Nissan et d'avoir ensuite tenté un rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler sans mettre dans la confidence les Japonais. Contraint de réagir, Jean-Dominique Sénard s'est montré très pédagogue, voix posée, le micro tenu à deux mains. Il a expliqué qu'il avait toujours travaillé dans l'intérêt de Nissan et qu'il était hors de question de forcer qui que ce soit. Face à cette agitation, Hiroto Sakawa, le PDG de Nissan, a eu beau jeu de se présenter en grand défenseur de l'intégrité du groupe japonais. Il s'est même permis de dire qu'il n'était pas opposé à une éventuelle renégociation des liens entre Renault et Nissan. Mais cette fois, ce sera selon ses termes. Cela implique donc que Renault accepte de baisser sa part dans Nissan, un projet qui est loin de faire l'unanimité à Paris.
C'est un véritable colosse français qui devrait voir le jour prochainement. Hier, le géant mondial des services informatiques Capgemini a annoncé un accord en vue pour le rachat du groupe de conseil en technologie Altran, montant de la transaction 3,6 milliards d'euros, mais surtout avec plus de 250 000 collaborateurs potentiels et 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Eh bien, cette acquisition fera de la nouvelle entité le leader de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Alors évidemment, comme à chaque opération de ce genre, les deux groupes visent des synergies de coûts. Est-ce une bonne nouvelle, Maxime?
En tout cas, ça va permettre de créer un mastodonte dans le domaine. Cela surtout va permettre à Capgemini de prendre encore plus d'importance et de poids dans un marché qui se transforme sans cesse, qui est très concurrentiel. Avec cette taille, Capgemini va se rapprocher d'un groupe comme Accenture ou à moindre mesure IBM. Pour certains économistes que j'ai pu contacter ce matin, il s'agit d'un bon rachat à un prix correct, environ 5 milliards d'euros avec la dette, même si Altran a connu quelques soucis par le passé. Un achat qui va permettre en tout cas de diversifier le groupe et malgré des économies d'échelle qui sont plutôt classiques selon les syndicats lors d'un rachat de ce type, cela va surtout pérenniser l'emploi en France. C'est capital pour les organisations syndicales qui n'ont pas de crainte sur le volet social du projet, même si sur le plan économique, ils concèdent qu'une telle fusion prend toujours du temps à être digérée, absorbée. On pointe aussi côté syndicat le climat social chez Altran, plus conflictuel que chez chez Capgemini. Mais là encore, nous sommes plus forts, plus gros, donc on va leur importer nos méthodes, me confie un syndicaliste ce matin. L'opération semble en tout cas réjouir les marchés financiers. Capgemini bondit de près de 6% ce matin. L'action d'Altran, elle, crève le plafond, plus 21% pour s'aligner sur le prix d'offre d'achat à 14 euros par action.
Merci Maxime Fayolle. Si la température ressentie est un concept généralement utilisé en cas de grand froid, il semble bien que l'épisode caniculaire attendu en France cette semaine n'échappera pas lui non plus aux variations d'intensité, et en particulier après l'annonce abrupte hier du gouvernement de reporter les épreuves du brevet des collèges prévues après-demain à la semaine prochaine. De quoi sinon échauffer un peu plus encore les esprits, du moins susciter un début de polémique. Polémique finalement vite éteinte tout de même ce matin. Le ministère de l'Éducation a précisé d'une part que les élèves recevront bien leur affectation pour le lycée vendredi prochain comme prévu, et d'autre part que les circonstances familiales justifiées seront un critère suffisant pour passer la session de septembre. Alors, hasard de l'actualité, cet épisode, outre qu'il témoigne de la très grande fébrilité des autorités depuis la tragédie de 2003, aura par ailleurs eu au moins le mérite de poser la question des fameuses passoires thermiques, comprenez, de ces établissements scolaires visiblement pas conçus pour s'isoler du froid en hiver et de la chaleur en été. Or, c'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale doit examiner le projet de loi énergie-climat, un texte censé amener la France à la neutralité carbone en 2050 en réduisant la part du nucléaire dans la production électrique nationale, mais aussi en prévoyant des mesures justement pour lutter contre les bâtiments mal isolés. Deux jours après qu'une opération de police a dégénéré à Nantes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a demandé hier à l'inspection générale de la police nationale de se saisir du dossier. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Alors tout a commencé samedi dernier à l'aube, aux alentours de 4h du matin, à l'occasion d'une soirée organisée pour la fête de la musique. Des policiers interviennent pour demander que la musique s'arrête. Rapidement, la situation va dégénérer. Après avoir essuyé des jets de bouteilles, de verres et de pierres, les policiers décident de charger. Au total, 14 personnes vont tomber dans la Loire et une autre, Antoine, est toujours portée disparue.
Effectivement, une enquête en recherche pour disparition inquiétante a été ouverte et on apprend par l'une de ses amies que le jeune homme ne savait pas nager. La crainte, c'est qu'il soit tombé avec la dizaine d'autres fêtards dans la Loire depuis l'île de Nantes où 13 cèdres étaient installés à l'occasion de cette fête de la musique. Alors que s'est-il passé dans la nuit de vendredi à samedi? La fête suit son cours normal jusqu'à environ 4h du matin, heure à laquelle les sonos doivent être coupés. Elles le sont, mais la musique est finalement rallumée. C'est là que les forces de l'ordre interviennent. Samuel Raymond est le coordinateur de l'association Freeform qui accompagne les organisateurs des mouvements festifs et il connaît bien les lieux.
Ça nous pose pas réellement de problème, cette intervention. Ce qui pose réellement question, c'est la forme de cette intervention. C'est-à-dire que visiblement, la police a fait le choix de disperser la foule en utilisant des gaz lacrymogènes. En sachant que donc les scènes sont installées sur l'île de Nantes, qui est un endroit donc qui est sur les bords de Loire, un endroit sur des quais qui sont à près de 5 mètres de haut. À cet endroit, la Loire est très dangereuse, très rapide. Donc ils ont fait ce choix de disperser la foule avec des grenades lacrymogènes pour que la fête s'arrête immédiatement. Et il y a visiblement eu un mouvement de foule et a priori 14 personnes ou plus sont tombés dans l'eau, et en tout cas 14 ont été repêchés par les pompiers.
Chose exceptionnelle, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a saisi l'inspection générale de la police nationale pour faire la lumière sur cette opération de police controversée. De son côté, le préfet de Loire-Atlantique estime que les forces de l'ordre sont intervenues de manière proportionnée. Il ajoute que les individus étaient, je cite, avinés, immaîtrisables et probablement drogués, et que dans ces conditions, il était difficile d'intervenir de façon rationnelle.
Merci Antoine Marette. Quand l'accusation vient des forces de l'ordre elles-mêmes, un rapport de la gendarmerie mettant directement en cause la police attesterait de la violence disproportionnée des opérations de maintien de l'ordre lors desquelles une militante de 73 ans, Geneviève Leguet, avait été gravement blessée. C'était à Nice le 23 mars dernier. L'invité de la rédaction à présent, à l'occasion de la publication du baromètre sur les conséquences de l'hyperconnexion pour la santé, Nathalie Hassel, directrice de la Fondation April. Bonjour madame.
Bonjour.
Écoutez, pour vous interroger, Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors votre fondation, créée il y a un peu plus de 10 ans, oui, s'intéresse à tous les publics, disons, fragilisés ou vulnérables. C'est la raison pour laquelle vous mettez en place des actions de prévention sur des thématiques extrêmement variées et notamment liées au stress, à l'activité physique, au sommeil. En l'occurrence, vous publiez donc aujourd'hui votre deuxième baromètre annuel sur les dangers de l'hyperconnexion. Et le premier enseignement de cette étude, madame Hassel, eh bien, c'est que le temps d'exposition aux écrans continue d'augmenter.
Oui, effectivement, il continue d'augmenter puisque dans notre baromètre, cette année, les Français déclarent passer 4h30 en moyenne par jour devant leurs écrans. C'est près de 8 minutes de plus par rapport à 2018.
C'est...
Question de Maxime Tellier.
C'est 8% de plus, je crois, par rapport au baromètre de l'an dernier. Et les chiffres sont assez impressionnants quand on s'intéresse à des populations comme les cadres qui passent 6 heures par jour sur leurs écrans, les 18-34 ans aussi,
oui.
Les personnes qui vivent dans les grandes villes.
Alors effectivement, en fait, ce temps d'exposition moyen, en fait, il explose avec certaines catégories de la population. Vous l'avez dit à l'instant, donc les 18-34 ans passent près de 5h48 devant leurs écrans, les cadres 6h03, les franciliens sans doute avec des temps de trajet plus importants, 5h05, et les diplômés du supérieur, 4h44.
Et pour les personnes qui sont le plus connectées, dans votre étude, vous le montrez aussi, hein, c'est les personnes qui consultent leur écran 8 heures par jour, donc un tiers de leur temps. C'est-à-dire une personne qui aurait 30 ans aujourd'hui aurait passé 10 ans de sa vie devant un écran.
Effectivement.
Alors, votre étude est intéressante aussi parce qu'elle se penche sur les conséquences de l'hyperconnexion sur la santé.
Oui.
On a l'habitude d'aborder cette question du point de vue de l'attention, notre
oui.
attention qui serait due à peau de chagrin. Le directeur d'Arte, Bruno Patino, montre que l'attention de la génération des millénials, ceux qui sont nés avec ces nouvelles technologies, oui. c'est environ 8 secondes, comme les poissons rouges. Mais il y a aussi d'autres effets sur le sommeil notamment.
Oui, alors sur le sommeil, mais plus globalement en fait sur les fonctions physiologiques, puisqu'en fait les Français nous disent qu'ils mesurent en fait les impacts négatifs sur le sommeil, vous l'avez dit, donc pour 58% d'entre eux, mais surtout en premier lieu sur la vision, pour 71% d'entre eux, et également sur l'activité physique, 58%, parce que quand on est hyper connecté, en fait on n'est pas forcément en mouvement, à moins de marcher, mais là on peut être aussi dans une logique de chute, donc voilà, ça empêche les bonnes fonction de la santé de fonctionner. Et puis, il note également des fonctions positives, malgré tout, de l'hyperconnexion, avec notamment une augmentation des apprentissages et des connaissances pour 68% des Français, et puis la stimulation de leur cerveau. Donc, ça n'est pas que négatif.
Et vous trouvez qu'il y a vraiment des points positifs ?
Je ne sais pas s'il y a des points positifs, mais en tout cas, voilà ce que déclarent les Français. Il faut en tout cas avoir une consommation raisonnée des outils et de l'exposition aux écrans. Ça, c'est certain.
Une tendance nouvelle aussi, c'est la déconnexion nocturne.
Oui.
Les jeunes générations ne déconnectent pas.
Alors effectivement, sans doute parce que c'est une génération qui a été élevée avec les écrans, on a interrogé les Français pour savoir en fait quels étaient leurs usages par rapport à leur portable sur la table de nuit ou pas. Et en fait, donc près de la moitié des Français laissent leur téléphone allumé la nuit près de leur lit, et c'est 74% des jeunes de 18 à 34 ans. Et ces mêmes jeunes en fait, ont même pris désormais l'habitude de consulter leur téléphone lors de réveils nocturnes. Donc il y a vraiment une hyperdépendance.
Les nuits de sommeil sont plus entrecoupées.
Plus entrecoupées, plus hachées, oui.
Que font les Français, que faisons-nous, parce qu'on est aussi concernés dans le studio, quand on consulte notre téléphone? Une idée reçue, ce serait qu'on consulte nos téléphones, nos tablettes et les ordinateurs pour des raisons professionnelles. Or, c'est pas du tout ça, c'est plutôt les raisons personnelles.
Alors, effectivement, vous avez raison. En fait, en premier lieu, on regarde nos outils en fait, pour des motifs personnels, et ensuite seulement pour des motifs professionnels.
Donc dans deux tiers des cas, je crois, c'est
ouais, c'est
personnel.
C'est trois heures. Alors, je n'ai plus le chiffre là tout de suite en tête, mais c'est près de 3 heures pour des motifs personnels et 1h24 pour des motifs professionnels. Donc, contrairement aux idées reçues, effectivement, c'est plutôt à titre privé, en fait, qu'on va surfer sur nos outils et nos écrans.
Alors, ne soyons pas trop catastrophistes ce midi. Il y a aussi des solutions. Vous en parlez dans votre baromètre?
Alors, il y a des solutions aussi bien dans le monde du travail que dans la famille. Par exemple, essayer... alors ça, c'est plutôt moi des préconisations qu'on donne, mais en tout cas, dans le milieu professionnel, on essaye de limiter plutôt l'usage des mails. On essaye de se déconnecter en dehors des heures de travail. Et puis, plutôt que d'envoyer un mail, par exemple, on se déplace pour aller voir son collègue. Donc déjà, c'est bon pour la santé parce qu'on se lève. Ça minimise la sédentarité qui est, je le rappelle, la première cause de mortalité évitable aujourd'hui au monde. Et puis, ça favorise aussi le lien social.
Il y a aussi des entreprises qui font des journées sans mail. Moi, j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait faire ici à France Culture, mais...
Oui, alors il y a des entreprises qui font des journées sans mail. Pour autant, c'est une solution qui n'est pas forcément jugée comme étant la plus efficace et qui apparaît vraiment dans le bas du tableau dans les items énoncés par les Français.
Et globalement, vous diriez que vous êtes plutôt optimiste ou pas ?
Alors, je pense qu'il faut rester optimiste, hein, parce que de toute façon, aujourd'hui, les écrans font partie de notre vie. Il faut simplement avoir les bons comportements et dans la
mais
mesure.
Mais la trajectoire que vous montrez ne porte pas à l'optimisme.
Pas forcément, mais il y a des côtés positifs, notamment sur les connaissances, la stimulation du cerveau. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire sans. Donc, il faut juste apprendre à réguler et surtout éduquer dès le plus jeune âge aux bonnes habitudes de vie par rapport à cette hyperconnexion.
Et on terminera par ces mots. Merci Nathalie Hassel, directrice, je le rappelle, de la Fondation April, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Maxime Tellier. On termine avec un mot de météo. Un temps encore instable cet après-midi dans le nord-ouest du pays. Partout ailleurs, le soleil s'imposera facilement. Et puis, comme annoncé à deux jours maintenant du pic attendu de la canicule, le mercure va continuer de grimper avec plus de la moitié du pays en alerte orange et des températures qui devraient avoisiner les 40 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Demergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.